France Bleu RCFM. France
Bleu.
Yeah.
Help.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Soyez les bienvenus sur RCFM et dans Toc Toc. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Christophe Zagallet comme chaque vendredi. Bonjour Christophe.
Bonjour, bonsoir Marie. Quelle belle écharpe, quel beau foulard même.
Ben, je l'ai emprunté à l'un de nos invités. Voilà, c'est comme une prise
Piquer
de guerre.
Comme, ça, les,
comme
les
une prise de guerre, voyez-vous.
Maintenant.
Je ne sais pas si je vais la rendre parce qu'elle est très jolie et elle sent très bon. Aujourd'hui, nous avons deux invités pour le prix d'un. Eh oui, ce sont les soldes de fin de semaine. Nous allons parler de théâtre.
Avec,
ça fait plaisir. De grands comédiens, vous entendez leur voix. Ils sont là, ou presque.
Qui est là ?
Bonsoir, qui est là ?
Eh bien, il y a François Berlingue qui est en fin de parcours d'ailleurs.
Et ?
Jacques Philippe.
Ah oui, vous vous attendiez que François Berlingue y présente Jacques Philippe.
Ah,
il n'en
oui,
a rien fait.
Non, non, c'est pas possible.
Il n'est pas dans le coup. Ah,
il est assez grand pour se
il est très,
tout
oui,
seul.
Oui, il est très diminué.
C'est quand même le seul comédien qui a sa statue devant l'entrée du théâtre. De son vivant, ça c'est rare.
Je trouve pas ça très ressemblant, mais enfin, bon, d'accord.
Oui,
du théâtre de
Bastia,
je vois très bien. Oui, je vois sur le parking même, si je puis me permettre.
Voilà, oui. Oui, sur le parking. Oui.
François Berlingue et Jacques Philippe, nous vous retrouvons sur scène. Ce sera du côté de la salle Nadal et Loujani à Corté. Et mardi à 18h30 pour Moins 2.
Voilà.
Cette pièce de Samuel Benchetrit qui a été mise en scène en ce qui vous concerne par Jacques Tresse avec le théâtre de Cèdre.
Le théâtre du Cèdre.
Du Cèdre. On vous avait vu avec cette pièce, c'était en 2014 pour la création.
Des théâtrales, oui, c'est ça, oui.
Samuel Benchetrit, vous avez donné les brouillons avant de la monter lui-même.
oui,
parce qu'il a écrit après, c'est bien après.
Ou alors, oui.
Il a écrit, c'est bien après, en fait.
Oui.
En fait, on peut bien après que vous la montiez.
On peut le dire, c'est nous qui avons soufflé l'idée. Hein.
Bon, c'était
le sujet. Hein.
C'était avec Guy Bedos et Philippe Magnot.
Ah non, la première.
C'était avec vous, la première.
C'était une pièce qu'il avait faite pour. Non, c'était une pièce qu'il avait faite pour.
Ouais, mais regardez. Son beau-père.
Son beau-père. Jean-Louis Trintignant.
Qui était son beau-père.
Son beau-père.
L'histoire, deux hommes voisins de lit dans un hôpital, qui apprennent. Alors, c'est très vite dans la pièce. Ça. C'est le début, par leur médecin, qu'ils n'en ont plus pour longtemps.
Oui.
Et d'ailleurs,
moins une semaine.
Et l'autre 15 jours.
Lui fait quand même une semaine de plus que lui.
Ça lui fait une semaine de plus. Voilà.
C'est toujours ça de prix à l'ennemi.
Bien sûr que c'est bien. Et à partir de là, de cette annonce tragique, un ressort comique va naître dans la pièce, puisque vous allez décider de vous tirer, quoi.
Et
vivre ce qu'il vous reste à vivre.
Ce qu'il nous reste, oui. Ah, c'est une pièce très optimiste. Hein. Optimiste jusqu'au bout.
Qui a eu envie de la monter, cette pièce ?
Ah ben c'est moi, disons, oui. Alors, c'est une pièce que j'avais lue. Alors maintenant, je peux le dire, il va en souffrir, sa modestie étant très grande, mais quand même. Quand j'ai lu la pièce, moi, j'ai pensé tout de suite, le personnage de Jules Tourtin, j'ai pensé tout de suite à François. Et quand je l'ai fait lire à Jacques Tresse, il m'a dit, Jules Tourtin, c'est François Berlingue. J'ai dit, oui. Ça les voit très bien, d'ailleurs.
Mais ça fait plaisir, ça.
C'est-à-dire, peut-être, c'est peut-être une question de corpulence aussi. Je sais pas, ça se voyait dans le texte, déjà.
Mais il faut dire une chose, c'est que Jacques Tresse, vous avez vu jouer tous les deux, et l'un et l'autre.
Ah oui.
Voilà, il aimait bien les comédiens.
Il avait été ébloui.
Non, c'est pas ça.
Avec Jacques Tresse, on a même eu l'occasion de jouer ensemble.
Mais oui, c'est pour ça que...
Puisque c'était un superbe Monsieur Brun dans la trilogie. Dans Mario, tu vois.
Vous aviez joué ensemble.
C'était Monsieur Brun.
Il avait appris le corse, il disait « Mika Bermé ». Voilà, c'est les trois mots qu'il disait dans la pièce. Voilà, c'était très bien.
Allez, c'est le moment de retrouver l'invité mystère.
Toc toc, l'invité mystère.
Bonsoir, invité mystère.
Bonsoir.
Oh, quelle voix charmante. Une voix de jeune demoiselle, on dirait. Vous pouvez lui poser les questions que vous voulez pour deviner de qui il s'agit, car l'invité mystère a très peu de temps.
Oui.
Devant elle ou devant lui.
Alors,
c'est une fille.
Est-ce que vous êtes une fille ?
C'est ça la question?
Oui.
Non.
Non.
Vous êtes un garçon, alors?
Bien. François, quel...
Bah, c'est-à-dire, vous savez, le transgenre, maintenant, ça me sait pas du vivant.
Perspicace.
Ouais. J'entends pas bien, mais j'ai envie de... Oui.
Faites du théâtre?
Oui. Oui, oui.
Ah.
Ben, dites-le, si vous...
Marie-Paul Franceschi. C'est tout.
Je viens de dire que c'était pas une fille.
Il vient de dire que je suis pas une fille.
En fait, c'est pas une fille.
Ça veut dire que Georges vit avec Jacques-Philippe, ce soir. Georges vit avec un mec.
Oui, attendez, oui, oui. Georges, ben, pourquoi pas, hein, ça peut arriver.
Oui, non, ben, bien entendu, mais
ouais, en fait. Il n'y a pas de mal à ça.
J'ai pas eu cette impression, moi.
Non, alors, vous êtes un homme.
Non, c'est pas un homme, c'est une fille, Jacques.
C'est une fille.
Il comprend rien.
Non,
c'est terrible. C'est une fille, on t'a dit.
Je comprends pourquoi l'invité mystère m'a dit j'ai pas beaucoup de temps devant moi.
Ah bon?
Il savait à qui il avait affaire. Et donc c'est un homme de théâtre.
C'est un homme de théâtre.
Un homme de théâtre.
Non, il parle pas, on va savoir.
Elle pose lui des questions.
Oui, alors bon.
Pourquoi vous êtes pressé?
Est-ce qu'on a joué ensemble?
Ah. Oui.
Jean-Pierre.
Mais je sais pas. Demandez-lui. Demandez-lui.
On a joué.
Comme ça, vous le libérez. Il est super pressé.
Vous êtes metteur en scène. Ah, vous êtes metteur en scène aussi.
Oui.
Oui. Vous avez mis. Il y a pas très longtemps, vous avez mis.
Pas de choses intimes, hein.
Non, non, mais non, 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 non. Non, il n'y avait qu'il couche, il n'y a rien. Non, on va. Non, vous avez mis en scène une pièce de Molière, mais traduite en corse.
Oui.
Voilà.
Ah, et donc
je crois qu'il a son rire. Ouais, ouais. C'est Jean-Pierre Lanfranc aussi.
Il n'a pas duré bien longtemps. Hein.
Ah non, non.
Bonsoir Jean-Pierre Lanfranc.
Bonsoir.
Mais c'est quoi cette histoire que vous avez à rire comme ça? C'est ouais, ça que vous pensez?
J'ai un rire comme ça, moi.
C'est Jacques-Philippe oui, qui vient de le dire.
Ah, oui, oui. Ah, il a peine à bébé, là. Fascisante.
Bon, Jacques.
Bon, bah écoutez, j'ai pas tenu le mystère bien longtemps.
Non, pas très longtemps.
Non, non.
Ça tombe bien parce que vous avez un cours justement
oui.
à donner. Du côté de Togg et voilà, les élèves sont déjà arrivés.
Oui.
On parlait de Scapin, on en reparlera dans cette émission parce que le public s'est régalé. Et c'est une pièce qui va tourner encore, j'espère.
Oui, on devrait faire une tournée cet été. D'ailleurs, François, j'espère qu'il en a parlé un petit peu, ben, quoi qu'il devait parler.
Il vient d'arriver.
Donc on tourne cet été, s'il y a des villages qui sont intéressés.
Voilà.
On tourne entre le 25 juillet et le 11 le 11 août, mais les quatre dernières dates sont déjà prêtes. Enfin, il reste encore quelques dates. Voilà.
Et on vous appelle, Jean-Pierre, on vous appelle,
oui,
comment on procède?
Appelez moi ou François. C'est,
voilà. D'accord. Et la fiche technique, elle est pas trop lourde? Je dis ça pour les mairies.
Non, justement, la fiche technique, on s'est arrangé pour jouer à 18h le soir, 18h-18h30, donc on joue en plein jour, on joue si possible sur une place de village, dans un petit endroit, on n'a pas besoin d'une grande place, etc. Donc il y a une fiche technique très légère.
D'accord.
Bon.
On vient, on joue.
Et on repart.
Les comédiens rendent les gens heureux et on s'en va.
Vous balayez ou pas après? Parce que j'ai l'impression que c'est très expédié. Oui. Balayez,
oui, on débarrasse tout.
On
mange un morceau et puis on s'en va.
Jean-Pierre, on vous embrasse. Merci d'avoir été avec
merci.
Nous.
Allez.
Au revoir.
Après, c'est tout.
C'est de l'oustique, là.
Ah, ben nous, on prend du plaisir avec Christophe de les avoir. Allez. Alors, justement, avec Jean-Pierre Lanfranc, qui vous connaissez depuis des années et des années.
Il
y a eu les Storti.
On s'est connu il y a très longtemps.
Vous n'étiez pas né, Marie, pratiquement.
Mais moi, racontez-nous.
Moi, j'ai connu Jean-Pierre en 80. Enfin, j'ai connu Jean-Pierre il y a très, très, très longtemps. Mais j'ai commencé à faire du théâtre avec lui, avec le Théâtrine, en 89, avec Don Giovanni. J'avoue que j'ai tendance à souvent dire que la vie, c'est une question de chance et de rencontre. Et là, j'avoue que j'avais été gâté quand même. Joe Fondacci, Guy Cimino et Jean-Pierre Lanfranc.
Don Giovanni, sans femme,
tomber.
Hein. À l'époque, que des hommes, parce qu'après ça a été monté avec des femmes. Et là, c'était que des hommes.
Il y avait juste Guy qui s'est déguisé en femme par moment. Poulendine, on l'appelait Poulendine.
C'est la première ou la deuxième pièce du Théâtrine, me semble-t-il.
C'était la première, je pense.
Du Théâtrine, oui.
Oui.
Parce qu'auparavant, Jean-Pierre et Guy avaient joué avec Pierrot Miguelan, ils avaient l'instant de la Zotta Lol. Moi, c'est comme ça que je les avais connus.
Après, François, il y a aussi.
À Paris, on s'était vus à ce moment-là. Enfin, moi, je les avais rencontrés à ce moment-là.
Mais vous étiez professeurs tous les deux.
Vous étiez
enseignant.
Oui.
C'était un hobby, le théâtre, c'était quoi? Comment c'est entré dans votre vie?
C'était avant tout un plaisir.
Un plaisir, oui.
un plaisir, parce que on a partagé des choses absolument extraordinaires avec les gens avec qui on a travaillé, quoi. Et moi, je me souviens, lorsque j'ai commencé, j'avais fait quelques bricoles avec le Tavagne. On faisait une veillée qui était une espèce de spectacle de mise en scène, mais de façon assez sommaire, je dirais, mais qui était pas mal, qui était agréable à entendre et à regarder.
Jean-Pierre qui a rejoint aussi le Tavagne Club, hein. Jean-Pierre
oui,
Lafranc,
qui était un des chanteurs, qui a une voix magnifique. Il faut mieux qu'on dise du bien de lui.
Oui. On sait jamais. Hein.
Comme il va faire des distributions.
Voilà, oui.
Mais on comprendra dans cette émission que tout se regroupe.
Voilà, oui.
Finalement. Donc, vous avez commencé comme ça par une veillée entre amis, et puis petit à petit, les choses se sont enchaînées.
Avec Tavagne, on avait également monté une pièce de théâtre qui avait eu du succès à un moment donné, qui s'appelait Scudino ou Dépouillé, qui avait été écrite par Tintin Pasqualini, qui était absolument génial. C'était une grosse farce sur les élections. Il y avait tous les clichés qu'on peut imaginer. Y compris des lapins qui sortaient d'une urne à un moment donné, c'était absolument incroyable. Et on avait beaucoup rigolé avec cette pièce.
Ah oui.
On l'avait d'ailleurs rejoué pour les 40 ans du club à Talazani.
Mais avant ça, étudiant, enfant, vous n'aviez pas touché au théâtre, ni l'un ni l'autre ?
Si, bien sûr, moi oui.
Jacques, racontez.
Oui. Ah, moi j'ai commencé à 12 ans, 13 ans, à la fête du village. Hein. Voilà, c'est ça, oui. Bon, ça m'avait plu tout de suite.
En inventant quelque chose, en rejoignant...
Non, j'avais joué un rôle, je l'avais appris, etc. Et bon, je crois que c'est parti de là. Hein.
Dans le cadre,
et après, bon,
à Lourdes.
Oui, à Lourdes, et oui, c'est ça. Et après, je faisais, moi, des spectacles, etc. Il y a des gens, des amis maintenant qui sont vieux, qui me rappellent effectivement que je faisais ça. Enfin, ça me plaisait, quoi. C'était...
Devant la famille, les amis, devant
les amis,
le village.
Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et après, j'ai continué. Bon, après, j'ai fait une formation, voilà... Voilà. Après, j'ai suivi l'école normale, donc je faisais partie de...
Bien sûr.
Voilà, bon, j'avais joué. Après, à Paris, j'ai fait une formation, quoi. Je suis allé au théâtre des ateliers d'Ivry, chez Vitesse, quoi. Et après, bon, petit à petit, je l'ai faite, parce que moi, j'étais prof, hein. En même temps, c'est resté toujours un plaisir, hein. Mais c'est vrai que c'est, par exemple, quand on jouait avec Michel Raphaël, par exemple, ici, c'était un gros engagement, quoi, je dirais.
Bien sûr.
Parce que ça demandait beaucoup d'investissement, quoi, je dirais.
Et est-ce qu'il y avait déjà cette notion de mettre en avant la langue corse, de sauver cette culture
disparue ? Oui, c'est parce que ça, c'est dans les années...
où on ne se rend pas trop compte.
Non. Enfin, moi, j'avais commencé dans les années... personnellement, j'avais monté un groupe de théâtre... à la Casa du Bourbourg-Gourse dans les années entre 75 et 80, après, en 83, je suis revenu en Corse, mais j'avais monté une troupe de théâtre. Et c'est comme ça que j'avais connu Jean-Pierre et Guy, qui étaient venus jouer.
Jean-Pierre Lenfant qui
étaient venus jouer, oui. Et après, quand je suis rentré avec Jean-Pierre, on a joué avec Michel Raphaël. Voilà. Et bon, déjà, langue corse, c'était déjà, bien sûr, moi, je crois que j'étais parmi les premiers à traduire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de traduire le théâtre contemporain, puis le théâtre étranger, je dirais. Je voulais qu'il soit joué autrement qu'en français. Parce que nous, ce qu'on connaissait encore, c'était le théâtre. On connaissait Molière, c'était en français, mais je veux dire, les pièces de Shakespeare ou de Pierre Handel, on les jouait en français. Et on a été les premiers, j'ai fait partie des premiers à traduire des pièces en corse, quoi, disons.
La langue corse, pour vous, François, vous avez joué tout de suite en Corse ?
Ben oui, moi, lorsque j'ai commencé à jouer avec la théâtrine, on a joué qu'en Corse.
On jouait qu'en Corse, oui.
Moi, j'ai très peu joué en français. J'ai très peu fait de théâtre en français. Peu avec Jacques et Jacques Tresse. Là.
Ouais, ouais. Moins deux est en français.
Oui, maintenant, en français.
Mais sinon, très très peu de pièces, oui.
Alors, on va retrouver.
Et ça a même été pour moi, d'ailleurs, je le préciserai, un très bon moyen d'apprendre.
Bien sûr.
Parce que j'étais pas un très bon corsophone, moi, jusqu'à 18 ans par là, quoi. Et ça a été pour moi vraiment un moyen d'apprendre beaucoup de vocabulaire, de tout genre de phrases. C'est vraiment une façon très, très, très bonne. Je pense que c'est une méthode pédagogique qu'on aurait utilisée encore plus pour les jeunes. Parce que ça, vraiment, c'est...
Un très bon vecteur comme la musique, la chanson, bien sûr.
On le sait très bien, d'ailleurs. Les jeunes comédiens, Cédric Apieto, Nathanaël, tout ça, c'est des gens qui, au départ, ils n'avaient pas une maîtrise du corse. Ils l'ont appris, Nathanaël, moi, je me rappelle. Ils me demandaient, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des fois même des phrases qui... Alors qu'il a très bien...
Nathanaël, moi j'ai souvenir de Lorenzach, où je dis des bêtises, où il avait appris phonétiquement...
Même
pour Marius, ou pour...
Oui. Non, ils ont fait un boulot extraordinaire, hein, les jeunes
Chani
comédiens.
Chani également.
Chani aussi, bien sûr, ouais. Oui.
Tout à fait.
Ils ont fait un boulot extraordinaire, hein, magnifique.
Hein. Des acteurs qui ne parlaient pas du tout le corse.
Non.
On va écouter un teaser, ne m'en voulez pas, mais vous... Oui.
Non, je voulais simplement dire que, puisqu'on parlait de Scapino tout à l'heure, oui. les quatre jeunes qui jouent dans Scapino,
qui sont des
adolescents adorables, ils ne parlent pas corse de façon parfaite dans la vie de tous les jours, mais ils ne sont pas parfaitement corsophones, mais là, ils ont fait l'effort d'apprendre, et je suis sûr que ça leur apporte beaucoup, du point de vue de l'apprentissage de la langue.
Bien sûr, c'est énorme.
Et en plus, c'est tellement ludique d'apprendre comme ça.
Le théâtre, la chanson, c'est les moyens les plus importants, les plus intéressants pour pouvoir apprendre le corse. Hein.
Est-ce que quand on... J'ai une question intello. C'est la minute de la question intello. Yeah. Est-ce que quand on joue en Corse et qu'on ne maîtrise pas le corse, puisque ça a été votre cas, François, lorsque vous aviez 17-18 ans, est-ce que c'est comme un masque?
Comme un masque.
De jouer avec une autre langue?
C'est...
Pas du tout, Jacques?
Non, je crois pas. Je crois que même... Parce que moi, il m'est arrivé
De jouer
dans une autre langue. J'avais joué une pièce de Tchekhov où j'avais inséré une prière en polonais. Moi, bon, je ne parle pas le polonais. Mais quand on joue un texte, on le maîtrise complètement. Hein. On en connaît le sens et après, je veux dire, on l'intègre. C'est-à-dire que, comme la même chose que pour le rôle. Je veux dire, on traduit. Je veux dire, c'est Antoine Vitesse qui disait que le théâtre, c'est une traduction. Et c'est ça, je veux dire, on s'approprie quelque chose et on lui donne un sens. Donc le sens, il y est. Je veux dire, quand on joue,
on connaît le sens de cette langue, oui.
On le donne.
Même si on ne maîtrise pas la langue.
C'est ce qu'on essaie de donner, voilà.
Et encore, ça s'y prête, j'imagine, à travers les nombreuses expressions qu'il peut avoir en langue corse.
À plus forte raison, le corse, parce que c'est quand même, bon, dire, le polonais, c'est loin, mais je veux dire, le corse, il est cuit. Même si les gens ne l'entendent pas tous les jours, même s'ils ne le parlent pas eux-mêmes, je veux dire, c'est quand même, plus ou moins, ils l'entendent, je veux dire, c'est quand même plus facile, voilà. Et on le joue, il n'y a pas de différence, je veux dire.
Est-ce que vous voulez qu'on écoute le teaser de 2015 avec Guy Bedos et Philippe Magnan dont je parlais? C'était mis en scène par Samuel Benchetrit, de -2 pour donner envie aux auditeurs, puisque vous n'avez pas fait de captation.
Non.
Ou ça vous vexe, vous ne les voulez pas, vous n'avez pas envie de les entendre.
On les entend, ça peut peut-être donner envie
aux auditeurs de se rendre le mardi 26 à la salle Nadal et Loujain à 18h30 pour aller voir -2 avec François Berlingue et Jacques Philippe.
Une petite semaine.
Et pour moi, docteur?
15 jours.
La vache.
Désolé. Ben, c'est quand même une semaine de plus que vous.
On fout le camp?
Quand?
Tout de suite.
Jamais personne ne s'arrêtera en pleine nuit sur une route déserte pour charger deux vieux en pyjama.
Il lui reste une semaine à vivre.
Vous n'avez qu'à raconter ma vie tant que vous y êtes.
Mais c'est pas votre vie que je raconte, c'est votre mort.
Quel petit con, celui-là. Hein.
Grand con, ouais. Bon, il est où, votre mec?
À la maison, j'habite au 7 rue des Peupliers.
Vous ne voulez pas abandonner une femme enceinte à la venue d'accoucher?
Qu'est-ce que c'était que ça?
Avec votre costume mouillé, vous ressemblez à un dauphin. Mais j'ai deux vieux qui font leur sortie nocturne.
Vous pensez à quoi?
À cette phrase. Ce sont toujours les meilleurs qui partent.
Et alors?
Je trouve ça complètement con. Pour éviter de penser à ma mort, je pense à la vôtre.
Un texte donc de Samuel Benchetrit, -2, ici mis en scène par Samuel Benchetrit, avec donc les voix que vous avez entendues des acteurs Guy Bedos et Philippe Magnan. On rit beaucoup, mais c'est assez tendre.
Ah oui, bien sûr. Oui, c'est deux pièces. Bon, c'est deux vieux qui vont mourir, mais c'est une pièce très drôle. Enfin, comme vous avez pu entendre
les autres acteurs.
Mais en même temps, les autres acteurs, c'est Jacques Tresse qui reprend le rôle du jeune homme qui va se noyer. Et Anne Malaspine qui fait la jeune fille. Qui
était déjà là, Anne Malaspine.
À l'origine, oui. Qui est une très bonne comédienne.
Le décor.
Ah ben,
deux lits.
Ah oui, deux lits.
Oui.
Au départ, oui.
Oui, au départ, c'est deux lits.
Au départ, c'est deux lits. Et après, on se retrouve dans un appartement assez banal de deux jeunes. Bon, on voit qu'ils n'ont pas vécu grand-chose ensemble.
Non.
Et après, on se retrouve au bord du canal. Voilà.
Dans une salle de bal aussi.
Dans une salle de bal aussi.
Dans un hôpital.
Dans un hôpital.
En fait, ils partent tous les deux. Mais l'extrait que vous avez passé, fait les quelques morceaux de dialogue, montre à quel point le texte est intéressant parce qu'il y a vraiment des dialogues, des choses qui sont dites qui sont absolument succulentes, qui sont très drôles. Mais en même temps, qui sont très tendres. C'est deux vieux qui se connaissent pas, qui s'apprécient pas beaucoup au départ et puis qui petit à petit vont
se lier.
Connaître des choses ensemble, se lier et rencontrer des gens qui sont encore plus malheureux qu'eux.
Oui.
Et ça va relativiser un peu le leur de malheur, quoi. C'est-à-dire qu'en pensant aux problèmes des autres, ils oublient un peu les leurs.
Bah oui.
Un peu comme celui-là qui parle de, pour éviter de penser à sa mort, pense à la mienne.
Comment se crée cette complicité entre les deux personnages, puisqu'au début, ils s'aiment pas trop et tout. C'est la mort qui les lie, c'est cette inéluctable fin.
C'est la recherche de ils veulent rendre service à cette malheureuse femme enceinte, abandonnée sur la route, là. Et donc, ils partent à la recherche du mec qui l'a mise enceinte. Parce qu'il dit, oh oui, parce que bon, il peut
et pas. Et puis, ça leur permet d'oublier un peu ce qui est l'épée de Damoclès.
Et donc, voilà, c'est ça. Ouais. C'est plus le bonheur des autres qui les intéresse que leur situation propre.
Vous jouerez cette pièce, donc, je l'ai dit, à la salle Nadal et Loujani à Corté, le mardi 26, mardi prochain, 18h30. Oui. Également, au mois d'août, au Parc Galet.
Oui.
C'est pareil, c'est comme Scapin. Si vous nous écoutez et que vous avez envie de faire jouer cette pièce dans votre village, eh ben, n'hésitez pas, vous appelez Jacques-Philippe.
Oui, par exemple. Oui,
ouais, facile, ou Jacques Tresse,
ou
François Berlingue.
Oui, ou François Berlingue, oui.
Vous jouez tous les deux dans d'autres créations ?
Alors, en prévision, comme on a trouvé que le duo marchait très bien, et qui n'est pas nouveau d'ailleurs, on a en prévision de jouer le souper de Briseville, de Jean-Claude Briseville, avec deux personnages complètement différents. Bon, lui, il est pas sympathique du tout. Enfin, moi non plus d'ailleurs. Mais le souper de Briseville, c'est la fameuse pièce de Briseville sur la rencontre de Fouché et de Talleyrand.
Oui, bien sûr.
Voilà, Talleyrand qui invite Fouché en disant, bon, à la chaîne Napoléon, on dit, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et alors, il se sort un tas de trucs. Bon, c'est là qu'on voit l'image de deux crapus ensemble, quoi, disons. Et c'est un très très beau texte, hein, voilà.
Toujours avec le Théâtre du Cèdre ?
Oui.
Et toujours avec Jacques Tresse ?
Oui. Et François, il va être bien, en Fouché.
Et Jacques devrait faire Talleyrand.
Oui, ben on a compris. Vous lui dites jamais non ?
Non, moi j'ai du mal à dire non aux gens.
Et vous prenez du plaisir ou très peu, finalement, avec lui ?
C'est vraiment, un grand plaisir, je vous assure, de jouer cette pièce par la qualité du texte et puis par la qualité des relations, de la complicité qu'il y a entre Jacques et moi. Je vous assure qu'on y prend vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Et je pense que.
Non, et le public aussi, moi je ne l'ai jamais vu. Même en répétition, tous les gens qui l'ont vu.
Parce que même en répétition, elle est bien ensemble. On s'amuse.
C'est vraiment un grand moment.
Après, on le fait pour faire plaisir aux autres, quoi.
Les petits rituels tic ou toc de l'un et l'autre qui balancent sur l'autre. Est-ce que vous avez des rituels avant de monter sur scène ? Est-ce que vous avez ?
Non.
Superstition.
Non, pas vraiment.
Ils veulent pas le dire.
Non. Moi, il faut que j'aille pisser avant de tout de suite rentrer en scène, même si j'ai eu l'effet 10 minutes avant. Et tout. Mais sinon,
c'est peut-être un toc.
Je ne sais pas si ça intéresse les gens.
Oui, ça intéresse les gens. Et vous, François ?
Non.
Non, il ne pisse pas. Il a une prostate magnifique. C'est son médecin qui le lui a dit. Non, c'est vrai.
C'est exact.
C'est exact.
Je confirme.
Samuel Benchetrit. Voilà. Avec le Théâtre du Cèdre, mise en scène par Jacques Tresse et avec François Berlingue et Jacques-Philippe, qui sont nos invités jusqu'à 18h.
Toc Toc, c'est son année.
Alors c'est formidable puisque nous avons choisi l'année 1995 qui devait être hypothétiquement l'année de rencontre entre François Berlingue et Jacques-Philippe, mais en fait pas du tout parce que Jacques-Philippe il raconte n'importe quoi, dixit François Berlingue.
Puisque, je confirme.
Voilà, vous êtes rencontrés beaucoup plus tôt.
Bien avant, oui. Bien avant.
Mais 95 c'est important parce qu'en fait vous allez jouer ensemble avec le Théâtrine.
Oui.
Cette pièce, il se souvient.
Il ne sait plus.
En 94,
Aspect Tabour.
Aspect Tabour, on a joué.
Aspect Tabour. Spectre d'amour, qui est une adaptation de En attendant Godot.
En attendant Godot.
Oui.
Voilà.
D'accord. Parce qu'en fait, vous me dites, vous, que vous avez joué dans Poulitza en...
Alors, c'était l'année d'avant, Poulitza, en 94, voilà. En fait, en 95, on a joué à Spetabo.
Vous comprenez pourquoi il ne peut plus jouer que des rôles de vieux?
Bah oui. Bah oui, forcément.
C'était quoi, Poulitza, d'ailleurs?
Ouais.
Oh bah, il faut que ce soit François qui se rappelle, parce que moi, je me rappelle
c'était
plus.
C'était l'histoire de petits voyous. C'était, il y avait les quatre du Théâtrine, c'est-à-dire Guy, Jo, Jean-Pierre et moi, et Jacques.
Ouais. On faisait les, ouais.
On était d'ailleurs, l'affiche c'était un truc comme de ce que mettent les flics pour lorsqu'on recherche quelqu'un. Là.
Oui.
Les têtes de mise à prix, quoi.
Ouais. Ouais.
Avec des yeux au beurre noir, il y avait.
Et si oui, oui, se souvient de.
Non, ça, je me souviens. Non, si, je me souviens. Non, si, je me souviens.
Moi, je me souviens de vous en homme de Cro-Magnon sur une plage dans les Stourtes. Ça, c'était magnifique.
Ah, ça, c'était un grand moment. Ouais.
On peut pas l'écouter à la radio, malheureusement, parce qu'il n'y a que des onomatopées
non, c'est très beau,
et des sous-titres, donc c'est plus télévisuel. Mais vous avez passé des moments absolument délicieux avec les Stourtes.
Oui. Ça, c'était un bonheur, oui. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que là, c'est un peu vieux, tout ça. Hein. Oui. Et là, grâce à ces réseaux sociaux, ces trucs genre YouTube, tout ça, il y a plein de gens qui
Facebook,
nous en parlent,
qui
revoient tout ça, y compris des jeunes qui les avaient pas vus à l'époque, parce que pour la bonne et simple raison qu'ils étaient pour certains, ils étaient pas nés. J'ai l'impression que ça marche toujours, quoi, que c'est toujours drôle aujourd'hui, quoi, parce que c'était une espèce d'humour intemporel, quoi, qui faisait rire les gens. Et puis on avait la chance aussi d'avoir parmi les gens qui écrivaient ces sketchs, des gens qui ont une imagination absolument incroyable, comme Guy Chimino, Daniel Parigi, Gambini. C'était des gens qui avaient une idée toutes les trois secondes, quoi. C'était absolument extraordinaire de travailler avec ces gens-là. Ils avaient des idées à l'appel. Hein.
Il fallait aller vite aussi, hein. Écrire, tourner, jouer.
On tournait ça assez vite. C'était
il fallait un super directeur d'antenne, quand même, qui puisse vous laisser faire tout ce que vous vouliez.
On faisait ce qu'on voulait, hein. C'était vraiment, il y avait une grande liberté.
C'était qui à l'époque?
On se moquait même, entre guillemets.
André Stéphanage.
André Stéphanage.
Tout à fait. Et à l'époque, je me souviens qu'on prenait même pour cible, d'ailleurs Daniel était un grand spécialiste pour ça, prenait même pour cible des journalistes de Fer 3 de l'époque.
Jacques Bastianès,
vous aviez carte blanche absolue de la part de la direction.
On n'a jamais eu de soucis pour faire quoi que ce soit.
Non.
Ce qu'on a voulu. Et on a fait aussi des pastiches d'émissions de télé. Je me souviens d'un tour des manèges avec Joe Fondage, qui était absolument magnifique. Comment il s'appelait là? Et puis on refaisait aussi des séries américaines genre
Amour et Beauté,
c'était vraiment. J'ai oublié le prénom de Joe dans ces.
Dans Tournée Manège
comment
ça peut être drôle. Ouais.
Et alors, on imagine que c'est une excellente école, ça, pour un comédien. Ce genre de sketch où il faut vite écrire, tourner, enchaîner.
Bien sûr. Et puis, il fallait aller très vite. Et puis, c'est très formateur parce qu'il y avait toujours une part importante d'improvisation. C'est sûr. Hein. C'était vraiment. Et puis, c'est des moments. On a eu des fous rires, mais je vous raconte que c'était absolument dingue. On n'arrivait plus, nous, à garder notre sérieux tellement ça nous paraissait drôle. C'était vraiment. Moi, je me souviens d'une scène où avec Guy, il devait me dire une réplique. Chaque fois qu'on se regardait qu'il devait la dire, on éclatait de rire, on pleurait de rire pendant 10 minutes. Quoi. On a dû la faire 30 fois, quoi. 30 fois pour arriver à la tournée enfin.
Mmh. Derrière la caméra, on retrouvait Fifi Rafali déjà.
Tout à fait, c'était lui.
Il était déjà là, oui.
C'était lui qui officiait, oui. Mmh. Ouais.
Et Marie-Ange, Jérôme, était là aussi.
Tout à fait, bien sûr.
Ouais. Oh, bah, y a l'éternel, on se croit que ça restera dans les annales, le fameux Shabada Bada. Il y a Marie-Ange sur la plage et François qui arrive en courant comme ça. Qui est un moment merveilleux.
Oui.
Merveilleux.
Et on se percute. Hein.
Et on se
percute. C'est extrêmement difficile, l'humour à la radio et à la télévision. Et franchement, ça nous manque des sketchs. Je ne parle
Vous
pas de séries.
Vous avez un petit peu continué, François, ensuite, hein, avec Odéadrine, où il y a Famille Pastachou.
Tout à fait, bien sûr.
Oui, mais là, on est dans la série.
C'est déjà autre chose.
C'est déjà autre chose. Mais le sketch pur et dur, on n'en a plus, quoi.
Non. Ouais. Il y a des chaînes maintenant sur FR3 qui font des...
Oui, il y a eu Rafemax. Oui.
Il y a... Comment il s'appelle là?
Studiante.
Voilà,
série, c'est pas pareil, c'est une série, c'est pas des sketchs. C'est pas des sketchs écrits à la semaine, c'est une série voilà, sur le long terme.
Ouais.
Que s'est-il passé donc cette année
94 ou 95 du coup 94,
comme vous
hein, 94.
Comme vous voulez, 94, c'est parfait.
Vous êtes cinéphile d'ailleurs, Jacques et...
Est-ce que vous vous souvenez de l'année 1994
94. Ah non, mais moi j'étais pas né.
Je ne saurais pas vous dire, oui.
Beaucoup plus l'année jeune... de votre fausse rencontre.
Il est beaucoup plus jeune que moi, c'est pour ça. Oui. Ouais. Non, moi je ne saurais pas vous dire la date des films.
Vous allez vous rendre compte que vous connaissez tous les films qui ont été salués cette année-là, car c'était un très très bon cru.
Ah ouais.
Exactement, avec une palme d'or pour Pulp Fiction, un film donc de Quentin Tarantino.
Ah ouais.
Vous allez écouter ça.
Ah
ça
ouais.
Vous parle.
Ouais.
Je vous aurais bien vu dans un film de Tarantino.
Ouais, pourquoi pas.
C'est un cinéma qui vous touche, qui vous plaît, qui vous intéresse?
Ah oui, oui.
Ouais.
Ah oui, oui, bien sûr.
Tombola pour Steven Spielberg, hein, avec l'Oscar du meilleur film pour La Liste de Schindler, et puis aussi l'Oscar du meilleur réalisateur pour le réalisateur américain, donc pour La Liste de Schindler.
Oui.
Oh, que c'est joli. Là, on entend Sandrine Luigi qui reprend le thème à la guitare. Ouais. Vous connaissez Sandrine, hein, qui est une guitariste classique merveilleuse.
Oui, très, très, excellent.
Et qui reprend le thème de La Liste de Schindler.
Oui.
Vous vous souvenez de ce film?
Tout à fait.
Ah oui, oui.
Ah, oui.
Ah,
oui, oui. Très beau. Je l'ai vu plusieurs fois, d'ailleurs.
Ouais. Film en noir et blanc.
Oui. Ouais.
Moi, je ne l'ai pas revu souvent, mais c'est un très très beau film. Hein. C'est, comment il s'appelle
L'acteur, vous cherchez?
Oui, oui, oui. Comment il s'appelle?
On va demander à notre ami.
Avec son grand nez, là. Oui, très bien. Non, non, magnifique acteur.
On va passer un coup de fil à un ami, je ne veux que ça.
Ah oui?
Bah oui, c'est notre seule possibilité. Elle joue bien, quand même. Hein.
Elle est magnifique.
Donc, film en noir et blanc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a juste une scène où il y a une petite fille qui a un manteau rouge.
Ouais.
On la voit de loin, c'est lui qui la voit de loin, donc l'acteur qui n'est autre.
Liam Neeson.
Waouh, sans Liam internet. Neeson. Vous voyez qu'il sans a de la internet. Mémoire.
Oui, mais ça dépend des moments.
C'est un peu long quand même.
Plus vite que Google en tout cas.
Plus vite que moi, ça c'est sûr. Oui.
Et puis ça vous parle aussi, non?
Ah, c'est mon indicatif de délivrer des lires.
Oui, je crois que c'était samedi là. La leçon de piano.
La leçon de piano.
Oh, oui, avec Holly Hunter. Holly Hunter qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans La leçon de piano dans 1994.
Ouais, ouais. Film d'une grande sensualité.
Ah,
vraiment.
Ouais,
très beau film.
Ouais,
vous en souvenez?
Oui, très beau film. Ouais,
c'est
ouais.
pas votre genre ça.
Jill Campion, oui, oui.
C'est trop romantique.
Jill Campion, c'est bien. C'est toujours très bien.
Non, c'est pas votre. Je le sens pas emballé, François.
Si, si, mais. J'ai été plus sensible à la liste de Schindler, par exemple.
D'accord.
Ouais. Peut-être parce que ça parle d'un problème plus.
Bah c'est fort, l'histoire, quoi. Ouais. C'est notre histoire, puis c'est une histoire vraie. Hein.
Bien sûr.
Il a existé, Schindler.
Oui.
Et puis, l'Oscar du meilleur acteur cette année-là, en 1994, pour Tom Hanks dans Philadelphia.
Ah, très beau film aussi.
Magnifique.
Très beau film.
Vous voyez que c'est un bon cru.
Très beau film. Ah, oui, très beau film. Il n'y a pas que lui d'ailleurs ce film. Mais il y a, comment il s'appelle, Denzel Washington qui est magnifique.
Ah, oui. Cela dit, Tom Hanks.
Et l'actrice qui fait l'avocate contre Tom Hanks.
Oui, arrêtez de nous poser des questions parce que ça, on ne sait pas.
Très bien. Hein.
Ah oui, non.
On ne sait plus. Alors évidemment, la BO, c'est Bruce Springsteen avec Streets of Philadelphia qu'on entend là. Et la voix absolument magnifique. Et puis il y a une séquence incroyable où on entend la maman morte par Maria Callas.
Très beau.
Il est dans son appartement, Tom Hanks.
Ah, oui.
Et il l'écoute tout en dansant.
Ouais.
Très, très belle séquence.
Très émouvant.
Grand film. 1994, donc excellent cru pour le cinéma.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Pendant que vous faisiez Pulitz.
Voilà, c'est ça, oui.
Ou une autre pièce,
je sais pas. Je montais sur le cochon. Pulitz.
Ouais. Autre chose en 1994.
Oui, le cinéma et le théâtre, avec une disparition, celle du comédien et metteur en scène Jean-Louis Barrault, qui nous quittait donc en 1994 à l'âge de 83 ans.
Ouais.
Et puis Nelson Mandela, lui, était élu président de l'État sud-africain.
Il était
par le Parlement. Et puis il y a aussi une grande disparition également en sport qui a ému bien sûr le monde entier. C'est le pilote de Formule 1 Ayrton Senna qui se tue au Grand Prix d'Imola à Saint-Martin. Donc c'était le 1er mai 1994.
Mary Steenburgen qui jouait l'avocate.
C'est une actrice magnifique.
Ouais, très très belle actrice.
Ouais.
Alors évidemment, on s'est demandé quelle chanson d'un artiste français, d'un grand artiste français qui aurait pu vous plaire, chante l'amitié. On n'a pas trouvé mieux que Jacques Brel avec Jeff. Ça vous parle ça?
Très bien, ouais,
très bonne idée.
Allez, ouais, on écoute. Très bonne idée en effet.
Excellente idée.
Oui, puisque c'est la vôtre, disons-le à nos auditeurs.
Non, Jeff, t'es pas tout seul. Arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Et tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça bêtement devant tout le monde. Parce qu'une trois quarts putain t'a claqué dans les mains. Non Jeff, t'es pas tout seul, mais tu fais honte à voir. Les gens se peignent notre tête, foutons le camp de ce trottoir. Viens Jeff, viens, viens, viens. Viens. Il me reste trois sous, on va aller les boire chez la mère Françoise. C'était le temps que j'avais de l'argent. Non Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête tes grimaces, soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse. Je sais que t'as le cœur gros, mais il faut le soulever Jeff. Non Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de sangloter, arrête de te répandre. Arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau ou que t'es bon à te pendre. Non Jeff, t'es pas tout seul. Mais c'est plus un trottoir, ça devient un cinéma où les gens viennent te voir. Viens Jeff, mais viens, viens. Viens. Il me reste ma guitare, je l'allumerai pour toi. C'était le temps d'avant qu'on soit poivron. Allez, viens, Jeff, viens. Ouais, ouais, Jeff, ouais, viens.
Jacques Philippe et François Berlingue jouent moins de pièces de Samuel Benchetrit le mardi 26 mars. À Corté, à la salle Nadal et Loujagne, à 18h30. Ils joueront également moins d'eux au mois d'août au Parc Galet. Et peut-être qu'il y aura d'autres dates. Si vous qui nous écoutez, vous êtes intéressés et vous avez envie de les contacter. L'histoire de deux hommes qui se retrouvent voisins dans une chambre d'hôpital et à qui l'on apprend que leur mort est prochaine. Une semaine pour l'un, deux semaines pour l'autre. Et au début, ils ne s'apprécient pas trop, mais ils deviennent complices et compères dans cette aventure. Et c'est pour ça que cette chanson magnifique, bravo pour cette idée à tous les deux, Jacques et François. Ça fait très très longtemps que je n'entends pas la radio. Et voilà, vous m'avez fait plaisir. C'est un cadeau que vous m'avez offert. Vraiment.
Moi aussi, longtemps que je ne l'entendais pas.
Ouais, ouais.
Ah,
c'est
ouais, vrai. C'est... Voilà un artiste, un interprète, un chanteur qui est acteur également. Tout et on fait. Sait que vous avez plusieurs cordes à votre arc, puisque vous êtes plasticien. vous dansez pas mal et vous chantez avec Harry Wokad.
Attendez, attendez, on danse dans la pièce.
justement.
Dans moins d'heure, non,
j'y arrive.
C'est un grand moment de la chorégraphie contemporaine. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer.
Oui, mais vous dansez bien, mais François.
Ouais, très bien aussi. Très, très bien aussi. Il est très, très bien. Oui.
François, quels sont ses talents, à part d'être comédien? Puisque vous savez faire plein de choses. François.
Bah, il danse très bien.
Ouais. Il chante très
bien. Vous chantez?
Il chante bien.
Non, je chante pas.
Pas bien?
Non, j'avais fait une tentative d'incursion dans le groupe Tavagne, mais...
Ils vous ont viré?
Ça n'a pas duré très longtemps.
Ça n'a pas pris.
Non, je me suis retrouvé sur la touche assez rapidement. Et ma foi.
Vous
c'est un grand regret d'ailleurs.
C'est
de
vrai
pas, ou savoir chanter ou jouer d'un instrument. J'aurais aimé jouer de la guitare ou du piano.
Mais on dit que tout le monde
peut chanter.
On dit que tout le monde peut chanter.
Jacques.
Mais on dit que tout le monde peut chanter.
Après, il faut avoir envie de chanter.
Ouais.
Moi,
vous avez rejoint tard.
Moi, au cours de théâtre, je fais chanter les gens. Je veux dire, ah oui, non, moi, il y en a un qui m'a dit, moi, je suis pas venu ici pour chanter, je suis venu ici pour faire du théâtre. Bon, maintenant, ils chantent. Je veux dire, ils chantent. On va pas en faire des chanteurs d'opéra, des chanteurs de rock, mais ça s'apprend, je dirais. Ça s'apprend.
C'est
ça
un
s'apprend.
Moyen d'expression c'est, comme
c'est,
un autre.
Après, c'est un moyen d'expression. Après, il faut avoir envie de le faire. Voilà, c'est ça, oui.
Il faut quand même avoir, je pense.
Peut-être que vous aviez mis la barre trop haute, François Berlingue.
Il faut avoir envie de le faire, oui.
Peut-être. Donc, un autre François Berlingue.
Voilà, tout à fait.
Que vous côtoyez.
Mais je le distingue très bien parce que je joue au théâtre avec François Berlingue le gros et je chante avec François Berlingue le maigre. Comme ça, je ne me trompe jamais. Voilà, c'est ça qui est bien.
Donc, je disais que vous avez rejoint Harry Oukad un peu tard.
Bah, c'est-à-dire que j'avais toujours chanté dans les pièces de théâtre, par exemple avec avec Raphaël, par exemple avec Jean-Pierre Lanfranc, on a toujours chanté, dans les pièces de théâtre, j'ai toujours chanté.
Oui, c'est pas pareil, chanter dans les pièces de théâtre et puis rejoindre un groupe polyphonique.
Ça s'est fait sur le tard. Disons que j'avais écrit une chanson, c'est-à-dire que je voulais mettre en scène une pièce de Garcia Lorca que j'avais traduit avec. Avec Béatrice Castoriano, la maison de Bernard d'Alma. Et j'avais écrit une chanson. Et j'avais proposé à François Berlingue, le maigre, d'en faire une polyphonie.
Le chanteur, quoi.
Pas le chanteur. Arrêtez de dire le maigre.
Le chanteur. J'ai beaucoup
maigri. C'est vrai, en plus, vous êtes.
Non, mais
vous êtes très
maigre. Être gros, être grand, c'est pas ni un défaut ni une qualité, c'est un état. Hein.
Nous, on dit bien le grand Jacques.
Voilà, donc. J'avais proposé à François de faire une polyphonie et de chanter. Je voulais que le groupe d'Harry Oukad chante dans la pièce. Voilà. Et puis la pièce n'est pas faite. Et après, il m'a dit, mais tu ne peux pas rentrer dans notre groupe. Et c'est comme ça que je suis rentré. Et on chante cette chanson, d'ailleurs, que j'avais faite. Enfin, moi, j'avais fait d'autres. Mais voilà, c'est ça, oui, ça s'est fait. Mais moi, j'ai toujours été un peu en retard pour mon âge. Non, mais c'est vrai. Hein. J'ai eu une scolarité très chargée, j'ai passé le bac à 20 ans.
Il est attardé.
Intégrer Harry Oukad, c'est pas juste dire tiens, je vais aller chanter un peu le week-end. C'est la Divine Comédie, travail.
S'approprier
un répertoire polyphonique.
Oui.
C'est non, complexe.
Moi j'ai toujours aimé chanter. Voilà, mais ce qu'on faisait avec Raphaël, par exemple, les chants qu'on faisait avec Jean-Pierre, c'était assez. C'est assez costaud. Hein. Bon, parce que j'ai toujours chanté la polyphonie. Bon, la polyphonie, ce sont des accords traditionnels. Bon, je veux dire, une fois qu'on sait quel bar on chante, je veux dire, on peut chanter. Voilà. Ça, c'est de la musique contemporaine. Je veux dire, c'est de la musique corse contemporaine.
Et
la
polyphonie
contemporaine. Donc, il y a des partitions, il faut les apprendre, quoi, disons. Et donc, c'est un travail. Ça demande. Mais comme le théâtre, ça demande un travail.
François.
À propos de chant, j'ai un souvenir qui va vous dire à quel point c'est un problème pour moi le chant. Quand on a monté l'opéra de Katsu avec le Théâtre, c'est moi qui commençais. Et je chantais, accompagné par une accordéoniste, je chantais Ugantus Bonorado di Bitio. Et ça a duré une grosse minute. Hein. Et la pièce elle-même durait 2h30. Hein. Quand j'avais fini cette chanson, je me disais à moi-même, maintenant il ne peut plus rien t'arriver.
C'est fou.
J'avais une trouille de chanter.
Un trac.
Avec l'accordéoniste, d'ailleurs, on n'a jamais fini en même temps. Hein. Elle m'a rattrapé.
Mais vous fredonnez sous la douche, tout ça
hein?
Vous fredonnez sous la douche?
Oui, ça oui, beaucoup, très fort même.
Oui.
Oui.
Et qu'est-ce qui revient?
J'ai une chatte à la maison, ça l'épouvante. Elle va tapir sous un lit. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute, je chante faux.
Qu'est-ce qui revient comme chanson quand vous fredonnez?
Moi Ben, souvent des chansons de Brel, puisqu'on parlait de Brel tout à l'heure, parce que bon, Brel c'est associé à, vraiment à mon enfance, parce que mon père adorait Brel. Et je me souviens de, je vais raconter un peu ma vie.
Ah ben oui.
Je me souviens d'une émission télévisée à la télévision qui s'appelait Le Palmarès des chansons, qui était présenté par Guy Lux. Et il y avait eu un palmarès des chansons spécial Brel. Il avait chanté 15, c'était un récital, il avait chanté 15 chansons. Hein. Et je me souviens d'un grand moment d'émotion à regarder mon père, à regarder cette émission. J'en garde un souvenir vraiment très ému. Et pour moi, Brel, c'est vraiment associé à mon père.
Hein. Et à l'enfance.
Et à mon enfance, mon adolescence.
À l'adolescence, plutôt. Ouais, ouais, ouais. Et vous, Jacques?
Quelle est la question?
Quand vous fredonnez.
Quels sont les interprètes qui vous.
Moi, je chante constamment. Je le fais même comme ça. Même quand j'étais prof, le matin, j'arrivais en chantant. Je dis, monsieur, vous êtes content? Je dis, pourquoi vous êtes content? Et vous chantez. ça me vient machinalement, je dirais.
Ouais, ça fait partie de vous, c'est tout le temps.
Oui.
Et les acteurs que vous admirez, il y a des acteurs qui vous ont donné envie, que vous admirez ou vous dites, alors là, il est vraiment lui ou elle, ils sont vraiment extraordinaires.
Ah, il y a plein d'acteurs, je pense qu'il y a plein d'acteurs qu'on admire. Hein, je sais pas, moi, Depardieu, Isabelle Huppert. Michel Bouquet, oui, oui. Moi, c'est un truc qui me fait rêver parce que j'ai en projet une pièce, bon, alors, j'en parle pas encore parce que. Non, je suis pas superstitieux, mais tant que c'est pas fait. Mais une pièce qu'a joué Michel Bouquet. Et Michel Bouquet, c'est un type extraordinaire. Enfin, c'est un truc extraordinaire. C'est un acteur extraordinaire.
Pourquoi?
Je ne sais pas si ça peut s'expliquer. Il y a des gens comme ça. Il y a des qui ont une. Ça dépasse le. Bon, parce qu'on l'a vu par exemple. Des fois, on peut comparer, par exemple, des gens qui ont vu, je sais pas, Tartuffe ou Le Misanthrope. Bon, tout le monde a vu Alceste, on l'a vu, je sais pas combien de fois. Et tout d'un coup, on a l'acteur qui le joue différemment. C'est-à-dire, il fait autre chose. Et non pas que les autres soient mauvais, mais je veux dire, il apporte quelque chose de plus, peut-être, je sais pas. Quelque chose qui est peut-être plus fascinant, qui donne une densité au personnage qui est plus grande.
De différent. Il se passe quelque chose.
Je fais un petit. Dans un autre ordre d'idée, hein. Je vais lui faire un compliment, mais c'est sa modestie. J'ai vu Scapino. Scapino est une pièce, c'est une farce de Molière. Hein. C'est une farce avec des personnages qui sont un peu des personnages de la comédie. La prestation de François, bon, je le dis, c'est embêtant qu'il soit là, mais elle m'a ému.
Eh oui.
Parce que le Géronte qu'il fait.
Est un nouveau Géronte.
Il me touche. Voilà, ouais. Il me touche. Je vois l'humanité de ce personnage et sa faiblesse, je dirais. Et moi, au théâtre, c'est ça qui m'intéresse.
Non, on a envie de monter sur scène et de vous prendre dans les bras, c'est vrai.
Le théâtre qui m'intéresse.
Vous jouez un Géronte qu'on a envie d'envelopper. Oui.
Parce que le théâtre, ça fait rire, mais il faut que ça touche les gens.
Ouais.
Hein, c'est ce que disait Otomarche Kreshka. Allez au fond de vous-même. Quand il disait, comment jouer là? Allez au fond de vous-même. C'est là que le cœur du spectateur. Il faut arriver à toucher le cœur du spectateur. Et il y a des choses qui vous touchent comme ça.
Je pourrais en venir à Bouquet. Moi, je crois que c'est un des comédiens que j'ai vu sur scène, puisqu'il est venu plusieurs fois.
Oui, il est venu plusieurs fois.
Chez lequel je sens le plus de sensibilité. C'est vraiment. Et ça, c'est important, parce que c'est cette capacité à faire ressentir les choses d'une façon qui est absolument remarquable chez cet homme. Et en plus, c'est un grand professionnel. Quand il était passé à Bastia, c'est un travailleur, quoi. On n'a pas l'impression que ces gens-là travaillent beaucoup. Il racontait dans une interview d'encore ce matin, le jour où il jouait à Bastia, je ne sais plus quelle pièce, Molière, je ne sais plus lequel c'était, il disait que lui. Quand il joue une pièce dans la journée, il se redit tout le texte de la pièce.
Le malade imaginaire,
au moins une fois. Le malade imaginaire.
Ouais.
Il disait qu'il se redisait tout le texte de la pièce au moins une fois dans la journée.
Vous vous rendez compte?
La pièce que je voudrais jouer, là, c'est une pièce qu'il a jouée, lui. C'est une pièce avec un texte qui est très difficile à apprendre. Et je crois que c'était Isabelle Carré, sa femme, qui lui dit « Bon, maintenant tu arrêtes !» Elle ne le supportait plus.
Eh oui. On vous retrouve sur scène tous les deux avec beaucoup de plaisir. Jacques Philippi et François Berlinghi, ce sera le mardi 26 mars à la salle Nadal et Loujagne pour moins deux avec le Théâtre du Cèdre et puis au mois d'août au Parc Galet. Et puis on vous retrouvera dans une autre pièce, toujours avec le Théâtre du Cèdre et toujours tous les deux. Merci d'avoir été nos
invités.
Merci à vous. Merci Christophe Zagalli et merci Jean-Michel Tombini qui réalisait cette émission. Voici Harry Oukad, extrait d'un Incant, puisqu'ils étaient vos invités.
radio, exactement. Et Jacques était avec nous.
Ah, ouais, 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 ouais.
Et dans un instant, nous avons rendez-vous avec Michael Andréane, et juste après l'info.
France Bleu RCFM.